Le monde du vivant ne cesse de changer. L'histoire de la vie sur Terre se raconte par les différentes variations qui se sont inscrites au fil du temps dans un processus d'évolution, théorie de l'évolution rendue célèbre par Charles Darwin, mais qui est si complexe et si contre-intuitive qu'il n'est pas totalement inutile de s'y arrêter pour comprendre que l'évolution, ce sont non seulement des changements, mais aussi de la continuité et de la stabilité. C'est pour mieux comprendre comment fonctionne l'évolution que nous allons y consacrer deux têtes au carré. Premier volet dans quelques instants, avec toutes vos questions pour nos invités sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Ce soir donc, Laetitia, vous le disait, un astéroïde classé potentiellement dangereux va frôler la Terre. C'est la première fois dans l'histoire de l'astronomie moderne qu'une roche spatiale de cette taille passe aussi près de nos têtes. C'est à la Lune de la Science dans quelques instants. Et vos questions dès maintenant sur le compte Twitter de l'émission. Violaine Ballet prépare cette nouvelle tête au carré qui a été préparée et concoctée également par Fanny Cohen-Moreau et Axel Villard.
La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Guillaume Lecointre et Hervé Le Guyader, bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour. Bienvenue, vous allez donc nous guider sur les sentiers escarpés de l'évolution pendant deux émissions. Et ça ne sera pas trop parce que Guillaume Lecointre, pour nous mettre au parfum, vous expliquez dans l'un de vos livres que le rôle de l'évolution n'est pas d'expliquer comment ça change, mais au contraire, comment ça ne change pas malgré le changement. C'est bien comme entrant en matière, non?
Oui, ça dépend des niveaux auxquels on regarde. En fait, ça explique le changement, mais aussi la stabilité. Or, l'évolution qu'on a apprise à l'école, oui, tout ce temps qu'on est, on a mis l'emphase, on donnait beaucoup d'importance au changement. Or, à certaines échelles, l'évolution permet de comprendre, son principe en tout cas, permet de comprendre pourquoi on a des régularités malgré les changements physiques et chimiques sous-jacents.
Oui, c'est cette petite ambiguïté qu'il va falloir éclaircir, oui, avec nous dans un instant. Hervé Le Guyader, est-ce qu'on peut dire de l'évolution que c'est tout simplement ce qui raconte l'histoire de la vie sur Terre ?
Raconter et expliquer aussi. Mmh. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a l'histoire proprement dite et il y a aussi donc les forces importantes que l'on peut commencer quand même à bien comprendre qui expliquent justement les changements, mais aussi la stabilité.
Ouais, c'est ce qu'on va voir avec vous. Hein. L'évolution, donc, c'est le premier des deux dossiers que nous allons consacrer à ce thème, avec tous les messages des auditeurs qui arrivent déjà sur le site de l'émission. On se retrouve dans quelques minutes, franceinter.fr, pour nous rejoindre. Ce soir à 20h, un astéroïde va frôler la Terre. Peur sur le monde, à la une de la science.
De quoi s'agit-il ?
C'est un astéroïde.
Quelle est sa taille ?
D'après nos premières estimations, il aurait 97...
Il est grand comme le Texas, monsieur le Président.
Est-ce que vous avez une idée précise du risque ?
Il est total, monsieur. C'est ce que nous appelons un exterminateur. La fin de l'humanité. Où qu'il vienne à s'écraser, rien n'y survivra, même pas une bactérie.
C'est pas ça qui est prévu hein, ce soir à 20h, je vous rassure. Un astéroïde de 500 mètres de diamètre qui va donc passer dans le voisinage de la Terre. C'est la première fois quand même depuis 200 ans apparemment qu'un objet aussi gros passe si près de nous, ce qui fait que vous pourrez même l'observer évidemment selon l'endroit où vous vous trouverez. Bonjour Philippe Hénarejos,
bonjour.
Rédacteur en chef adjoint de la revue Ciel et Espace. Et puis par téléphone nous sommes avec vous, Patrick Michel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur du groupe Planétologie au laboratoire CNRS de la Côte d'Azur, spécialiste justement des astéroïdes. Alors c'est donc ce soir, est-ce qu'on va sentir passer le vent de l'astéroïde très près de nous, Patrick Michel ?
Non, heureusement. Non. C'est un objet qui fait 500 mètres et qui va passer à peu près trois fois la distance Terre-Lune. Mmh. Donc au mieux, on pourra l'observer avec de très bonnes jumelles ou des petits télescopes. Encore mieux d'ailleurs avec des observations radar professionnelles. Mais c'est tout ce qui peut arriver, heureusement.
Oui, alors le thème frôler la Terre est un petit peu exagéré alors, non ?
Oui, alors écoutez, il faut pas faire de catastrophisme actuellement, puisqu'on est quand même dans une période assez catastrophique pour d'autres raisons. Ce passage-là est plutôt positif parce que il va pas frôler la Terre suffisamment, en tous les cas, pour faire quoi que ce soit, évidemment, sur la Terre. En revanche, il va la frôler suffisamment pour qu'on puisse l'observer avec notamment des radars, ce qui va nous permettre, et ce qui est assez rare, d'obtenir des informations assez précises sur sa forme, sur sa période de rotation, enfin des données qui ne sont pas accessibles autrement et qui sont très précieuses pour nous.
C'est pour ça qu'il est intéressant alors, Philippe Hénarejos, hein ?
Oui, il est intéressant parce qu'il fait partie de ces astéroïdes assez gros. Bon, 500 mètres, c'est quand même petit. Il y a des astéroïdes beaucoup plus gros.
Ouais. Enfin, c'est une belle petite montagne quand même.
Oui,
là,
oui, c'est ça. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il est quand même assez gros pour que si un jour, éventuellement, il se trouve directement sur la trajectoire de la Terre, on sait qu'il fera des dégâts. Donc, il est important de les connaître, ces astéroïdes, de les répertorier. Bon, là, on a la chance de l'observer, d'avoir des données peut-être sur sa structure, sur son sol, savoir s'il est dur ou pas trop. Mm-hmm. Et tout ça, les scientifiques le mettent dans leur petite case et continuent leur classification de tous ces astéroïdes potentiellement dangereux un jour. Mais à des échelles de temps, rappelons-le, c'est toujours ça. Très très longues.
Axel, des réactions, des questions sur le mot-clé l'attaque
Ah oui, sur Twitter, une question de Christophe Aigron qui nous dit « Un morceau peut-il s'échapper de l'astéroïde et lui nous heurter ?»
Ah, Patrick Michel, alors...
Non, la trajectoire de l'objet, il passe relativement loin. Et pour qu'un morceau s'échappe, il faudrait qu'il subisse un impact avec un autre projectile. Et la probabilité qu'un événement de ce genre arrive est quasiment nulle. Ces objets-là subissent effectivement des impacts entre eux. Mais en fait, les impacts ont lieu lorsqu'ils sont entre Mars et Jupiter, là où il y a beaucoup d'objets. Quand l'objet passe près de la Terre, il est fortement improbable et même la probabilité est nulle qu'il subisse un impact et qu'en plus, juste après, le fragment tombe sur Terre. Donc, il n'y a pas de risque là-dessus.
Alors, Philippe, on pourra véritablement l'observer ce soir, selon l'endroit évidemment où on se trouve.
Oui, c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que pour les observateurs situés aux États-Unis et en Europe, il est observable. C'est-à-dire qu'il passe au plus près vers 17h20, heure française. Il commence à faire nuit. Alors, il va être brillant à la magnitude 9. C'est pas visible à l'œil nu, mais par contre, avec une bonne paire de jumelles, sous un bon ciel bien noir, hein. Bon, il y a un peu la lune ce soir déjà, il faut être loin des villes,
mais oui, c'est ça.
Plus certainement avec une petite lunette ou un télescope d'amateur, là on peut le voir. Et ce qui est étonnant, parce que j'ai eu l'occasion d'observer déjà de ces cailloux qui est passé près de la Terre, c'est que quand on réussit à la voir avec une bonne carte du ciel, pour savoir à quel endroit et à quel moment il faut regarder, on voit ce point se déplacer sur le fond d'étoiles à l'oculaire. Et c'est un peu comme quand on voit un satellite artificiel l'été, quand on regarde en l'air, on voit des points qui se déplacent. Eh bien, ça fait la même chose, sauf que là, on a quand même la sensation que c'est un gros caillou qui passe. Ouais. Et ça fait quand même une drôle de sensation. C'est quelque chose qui bouge. Si vous avez l'occasion, si vous êtes près d'un télescope public ou si vous êtes astronome amateur, essayez quand même, ça vaut le coup.
Ouais. Patrick Michel, est-ce qu'à Nice, on pourra le voir, cet astéroïde, ou très peu de chance également ?
Bah, pareil, là, le ciel, il n'est pas terrible aujourd'hui. Vous voyez, la Côte d'Azur, mais pas tant que ça. Ce que je voudrais préciser quand même, c'est que ces objets-là, on les étudie pour deux raisons. Alors, l'une qui est le risque d'impact. Effectivement, avec l'Agence spatiale européenne et la NASA, on est en train d'étudier une méthode pour les dévier, qui s'appelle la mission AIDA.
Ah oui ? Comment vous allez faire, alors ? Racontez-nous.
Alors, en fait, l'idée, c'est... cette étude va partir en ce qu'on appelle en phase A, c'est-à-dire une étude industrielle, pour l'instant, sur le papier, pour un an. Et après, on verra si elle est finalement décidée. Et l'idée, c'est d'envoyer un projectile artificiel à haute vitesse qui serait fait du côté américain sur un astéroïde et l'ESA ferait un satellite qui observerait la déviation depuis l'astéroïde, ce qui nous permettrait d'ailleurs de faire des mesures de sa structure interne avant et après l'impact pour voir si elle se modifie et aussi de comprendre comment ces objets-là répondent à ce type de technique de déviation pour pouvoir le tester et vérifier si on est capable de le faire.
Mais c'est quoi un objet artificiel ? C'est une bombe nucléaire carrément ?
Non, pas du tout, surtout pas. On veut éviter d'envoyer évidemment une bombe nucléaire. En fait, c'est un projectile passif, c'est simplement une espèce de gros satellite qu'on envoie qui fait 400 kilos, donc en fait pas si gros que ça, qu'on envoie à 6 km par seconde. Totalement passif, on ne met pas d'engin nucléaire là-dedans. Il n'y a aucune raison pour des petits objets d'utiliser la technique nucléaire. Donc, et la deuxième chose que je voudrais quand même préciser pour finir, je ne sais pas si on dit sur une note positive, c'est que ces objets-là aussi, on les étudie d'abord parce qu'ils nous renseignent sur les phases précoces de formation du système solaire, puisqu'en fait, ce sont les restes des briques qui ont formé les planètes. Simplement, les planètes, elles ont perdu la mémoire de leur composition chimique initiale parce qu'elles se sont transformées, elles ont chauffé, alors que ces corps sont suffisamment petits pour ne pas avoir évolué depuis leur formation. Donc finalement, les étudier, comprendre de quoi ils sont faits et comment ils évoluent, permettent de nous renseigner sur toute l'histoire du système solaire et peut-être même sur nos origines, puisque vous avez parlé de la théorie de l'évolution, puisqu'on pense que ce sont les astéroïdes qui ont apporté l'eau l'eau et peut-être même la matière organique qui a permis l'émergence de la vie sur Terre.
Ça nous rappelle des histoires de comètes, ça aussi, hein, Patrick Michel. Hein, il y a quand même des similitudes entre les
deux. Mais vous savez, la frontière entre astéroïdes et comètes devient de plus en plus floue.
Oui.
Et effectivement, ce sont deux populations qui ont gardé cette mémoire-là. Et évidemment, l'une pour des distances plus proches du Soleil et d'autres pour des distances plus éloignées, les comètes.
Allez, Axel, sur le hashtag l'attaque, d'autres réactions?
Une autre question d'Arnaud Herman qui nous demande pourquoi les missions comme Rosetta ne s'intéressent pas à ce genre d'objets qui sont quand même moins loin.
Alors, il y a des missions qui sont parties, Patrick Michel pourrait nous le dire. Il y a une mission japonaise qui s'appelait Hayabusa, qui est allée voir un astéroïde qui s'appelle Itokawa et qui est un de ces géocroiseurs, ou en tout cas un de ces astéroïdes dont les orbites sont proches de la Terre. Et il y a une autre mission, Hayabusa 2, qui est partie en décembre dernier, si je ne me trompe
pas.
C'est
vrai, on en a parlé.
Et qui part de nouveau explorer un de ces astéroïdes qui croise ou qui voisine l'orbite de la Terre. Donc, on s'intéresse à ces projets.
Comment il s'appelle Oui, Patrick Michel.
Il y a une autre mission, Osiris-Rex, de la NASA,
exact.
Qui va aussi en 2016 être lancée pour amener des échantillons, et peut-être cette mission AIDA pour faire un test de déviation. Il faut dire une chose, c'est que ces objets-là, les géocroiseurs, viennent pour la plupart de cette ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter, mais simplement, ils sont plus accessibles. Donc c'est en fait une population qui est assez intéressante pour les missions spatiales, parce qu'on peut y aller à moindre coût, et ils sont quand même représentatifs de cette population qui est plus loin, donc moins aisément accessible.
Et quel est le nom de l'astéroïde de ce soir, Patrick Michel, un petit nom poétique, j'imagine, comme toujours.
Oh là, non, celui-là, c'est 2004 BL86, donc il y a mieux.
Oui.
il faudra lui donner un nom, effectivement, plus poétique.
Bon, alors pour ceux qui seront bien placés, donc évidemment, et en dehors des villes, avec une lunette, donc on pourra voir passer cet astéroïde et se dire quand même qu'on verra un objet qui se trouve à 1,2 million de kilomètres de nos yeux. Hein. Donc
oui,
ça, c'est quand même formidable.
C'est un petit point, mais il est bien visible.
Merci beaucoup, Philippe Hénarejos. Merci, Patrick Michel.
Merci.
À très bientôt. Au revoir, Axel. À demain.
Au revoir. À demain.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, l'apocalypse à minuit moins 3. On se rapproche de plus en plus de la crise planétaire. C'est ce que préfigure en tout cas l'horloge de l'apocalypse qui a été avancée de 2 minutes. Cette horloge symbolise depuis sa création en 1947 l'imminence d'un cataclysme planétaire. Cette décision d'avancer l'aiguille a été prise par le bulletin des scientifiques atomistes de l'Université de Chicago, l'association qui a créé l'horloge et qui compte 18 prix Nobel parmi ses membres. Accélération qui est justifiée selon eux par la double menace que font peser le réchauffement climatique incontrôlé et la course aux armes nucléaires sur l'équilibre mondial. La barbe de Toutankhamon aurait mal été recollée. Vendredi, l'égyptologue Monica Anna a ausculté le célèbre masque du pharaon et elle accuse le ministère des Antiquités égyptien de l'avoir très mal réparé. Selon elle, on peut maintenant voir un très vilain paquet de colle rattachant la barbe symbolique au visage de l'enfant pharaon. Actuellement, le masque vieux de 3000 ans est conservé au musée national égyptien. De son côté, le ministre égyptien des Antiquités dément toute maladresse. Il assure que le travail de réparation a été bien fait, mais il ne précise pas pourquoi les conservateurs avaient dû recoller la barbe du masque de Toutankhamon. Et puis pour finir, les 30 et 31 janvier prochains se tiennent à Nancy les dernières journées nationales des Olympiades de physique. Elles se déroulent au sein de la Faculté des sciences et technologies de l'Université de Lorraine, donc finale nationale de ces Olympiades. 26 groupes de lycéens de toute la France viennent présenter leurs projets sous le parrainage du physicien Étienne Klein. Et en parallèle, de nombreuses conférences et ateliers sont proposés au grand public. Vous pouvez retrouver les informations de cet événement sur notre page Facebook de La Tête au Carré. Ça veut dire quoi l'évolution ? Deux invités pour nous éclairer dans un instant.
About these things, he knows so much.
This Charming Man avec The Smiths à l'instant.
La tête au carré, l'actualité des sciences sur France Inter.
Au départ, selon cette théorie, on était des poissons. On barbotait tous dans la flotte. Et un jour, un couple de poissons a eu un enfant mal formé. Et cet enfant mal formé, bien que différent, a réussi à survivre. Du coup, ce poisson à la con a fait d'autres poissons mal formés. Et un jour, un descendant du poisson mal formé a rampé hors de l'eau avec ses pattes de poisson mutant. Et il a enculé un écureuil ou je ne sais quoi pour faire ça. Une sorte de grenouille-écureuil, ce truc a eu à son tour un enfant mal formé, un singe-poisson-grenouille, et ce singe-poisson-grenouille a réussi à enculer un chimpanzé, et ce chimpanzé a eu un enfant mutant qui a sauté un autre chimpanzé, et ça a donné vous. Pour résumer, vous êtes les descendants d'un chimpanzé mutant qui a enculé un poisson-écureuil. Mes félicitations.
Voilà, c'est la théorie de l'évolution selon South Park et c'est le thème de notre tête au carré cet après-midi. Je suis content, ça fait rire quand même nos invités Guillaume Lecointre et Hervé Le Gaillard qui connaissent bien évidemment cet extrait hein, qui est devenu quasiment déjà un extrait d'anthologie dans l'histoire de l'évolution. Guillaume Lecointre, hein, c'est vrai
on l'entend presque à chaque émission.
Fois. Voilà, c'est ça. Hein, on a l'impression d'être un peu rebelle en envoyant cet extrait pour parler de ce sujet qui nous réunit cet après-midi. Premier des deux volets, le second ce sera dans 15 jours avec vous. Guillaume Lecointre, vous êtes systématicien, professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle, où vous dirigez le département de recherche systématique et évolution. Vous avez publié en octobre dernier l'évolution question d'actualité aux éditions Quaé. Et puis Hervé Le Guyader, vous êtes professeur de biologie évolutive à l'université Pierre et Marie Curie. Et vous êtes l'auteur d'un autre livre, Penser l'évolution, qui lui est sorti en 2012 aux éditions de l'Imprimerie Nationale. Et puis ensemble également, on vous doit un ouvrage qui s'appelle La classification phylogénétique du vivant et qui était paru chez Belin. Voilà, toutes les questions des auditeurs dès maintenant, franceinter.fr et le mot-clé, l'attaque. Guillaume Lecointre, Hervé Le Guyader, parler d'évolution au grand public, ça fait quasiment partie des missions hein, pour un musée, justement, comme le Muséum d'Histoire Naturelle. Pourquoi c'est important de discuter, d'expliquer toujours l'évolution ?
Parce que l'évolution, elle nous prend à rebrousse-poil. Si vous expliquez la théorie de la chimie, ça heurte à peu près personne. Parce que, grosso modo, il n'y a pas beaucoup d'applications dans l'imagination je vais dire populaire, pour faire large. Mmh. Le problème de l'évolution, c'est qu'elle... Ça, c'est pas son problème, c'est plutôt le problème de l'héritage culturel, de notre héritage culturel, c'est que cette évolution, elle explique comment vous arrivez à obtenir une harmonie apparente, enfin une adéquation apparente entre des formes vivantes et ce qu'elles font, les fonctions qu'elles remplissent. Quand une forme est convenablement conformé pour remplir un objectif, ce qu'on croit être un objectif ou ce qu'on croit être une fonction, bah nous, on a l'habitude de penser qu'il y a eu un concepteur, un architecte à l'origine de cette adéquation. Or, l'évolution nous enseigne que vous pouvez avoir des optimalités, des fonctionnalités sans architecte, sans concepteur. Et ça nous heurte profondément. Parce que nous, quand on veut fabriquer un marteau, quand on veut planter un clou, avant de fabriquer le marteau, on sait à peu près quelles propriétés doit avoir le marteau pour pouvoir planter son clou, voyez. Mmh. Et dans l'évolution, il y a des marteaux sans anticipation, sans concepteur.
Avec du hasard, en plus.
Et justement, c'est le hasard qui est à l'origine d'une adéquation, ça nous dérange.
Et ça donne beaucoup de malentendus aussi hein, autour de l'évolution, Hervé Le Guyader, parce que c'est assez contre-intuitif quand même, l'évolution.
Voilà, c'est pour revenir sur ce que dit Guillaume, l'un des points clés, c'est qu'on constate, disons, la biodiversité actuelle, qui est une grande complexité. On se demande d'où elle vient, on se rend compte qu'il y a quelque chose de dynamique. Et donc, on commence à comprendre la dynamique. Mais le problème lié aussi, c'est les constantes de temps. C'est-à-dire qu'on va parler en dizaines de millions d'années. Ces notions de temps échappent. On ne comprend pas bien les choses. Ouais. Et effectivement, lorsqu'on regarde, vous avez dit tout à l'heure que entre guillemets, tout commence à Darwin. Et c'est vrai que la biologie moderne est assise sur les idées darwiniennes. Et donc, en fait, ce qu'il va montrer, c'est quelque chose qui est totalement contre-intuitif. C'est-à-dire qu'il y a des choses compliquées et qui ont l'air d'être, disons, en adéquation avec leur environnement, qui vont presque, j'allais dire, s'autogénérer au fur et à mesure. et on va essayer de voir quelles sont les forces, quelles sont les entités qui peuvent évoluer. Et à ce moment-là, donc, on va avoir un cadre conceptuel. Et je préfère ce terme au terme de théorie.
Ouais, alors justement, il y a beaucoup de questions là-dessus, hein, précisément, parce que Marie-Pierre, par exemple, nous dit sur franceinter.fr, si la science repose sur des théories qui peuvent être remises en cause, pourquoi ne pas admettre que la théorie de l'évolution le soit également ?
Alors, justement, il y a toute une ambiguïté, mais on ne va pas passer l'émission là-dessus, hein, toute une ambiguïté sur le terme théorie. C'est-à-dire que lorsque les physiciens parlent de théorie, ils ont des équations, ils ont quelque chose de très abouti, qu'ils vont tester par rapport à des manipulations, etc. Et vis-à-vis de la biologie, tout d'un coup, le terme théorie est passé, alors qu'en fait, l'évolution, c'est un constat.
Il y a beaucoup de faits qui valident hein, en
voilà,
permanence.
Les faits, c'est un constat. Et là, on peut parler de théorie au moment où on essaie d'expliquer les choses. Qu'est-ce que c'est qu'une mutation ? Qu'est-ce que c'est la sélection ? Qu'est-ce que c'est la dérive ? Là, effectivement, on va faire des modèles mathématiques, on va faire des manipulations, on va faire des études. Là, on peut dire que l'on teste, comme les physiciens testent une théorie. Et cette ambiguïté du terme est épouvantable.
Ouais. Guillaume Lecoigne, vous citez les antibiotiques tiens, comme un exemple de fait qui illustre parfaitement justement ces constats qu'on fait de l'évolution. Hein.
Oui, pour des organismes à temps de génération très court, l'évolution, on la mesure, bien sûr. La résistance, la multirésistance de nos bactéries aux antibiotiques qu'on leur inflige, c'est un fait sélectif. Hervé a dit quelque chose d'important, il a parlé de dynamique. Une des raisons pour lesquelles notre culture est rétive à accepter l'évolution, c'est que nous sommes en permanence en train de capter des régularités pour prendre des décisions dans l'environnement. On repère ce qui est régulier et on nomme ce qui est régulier. Eh bien, l'évolution nous enseigne que cette régularité apparente, en fait, elle est, à petite échelle, le fruit d'une dynamique de changement. Et ça, c'est contre-intuitif aussi. Ouais. Ce qui est régulier à mes yeux provient d'un changement permanent, à plus petite échelle, bien sûr.
Oui, alors c'est ça, c'est le changement qui change et qui se maintient tout en changeant, pour reprendre un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure. Mais c'est cette échelle, voilà.
Voilà, tout dépend de l'échelle à laquelle on regarde les choses. Ce qui ne change pas à grande échelle, des régularités à grande échelle, sont obtenues à partir d'un hasard, d'essais-erreurs à petite échelle.
Ouais.
Et ça, c'est très troublant pour nous.
Et vous dites aussi, l'évolution s'observe à l'échelle de populations d'espèces, alors qu'évidemment, on préfère raisonner intuitivement là aussi hein, en termes d'individus.
Tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, dans le raisonnement darwinien, si vous suivez ce que fait un individu dans la population, vous n'avez pas l'image de ce qui se passe dans la population.
Ouais.
Le raisonnement darwinien, c'est-à-dire variation des individus dans la population et puis sélection via les contraintes de l'environnement au sens large, eh bien, le résultat il n'est mesurable qu'à l'échelle des populations. L'aptitude, elle est individuelle, mais l'adaptation, elle est populationnelle.
Ouais. Alors, donc, d'où cette nécessité de pédagogie, Hervé Le Guyader, toujours parce qu'il y a beaucoup de malentendus autour de l'évolution et on lui fait dire aussi également beaucoup de choses. Et puis l'évolution évolue, elle aussi.
L'évolution évolue, c'est-à-dire qu'il y a tout. Quand on fait des cours sur l'évolution, il y a plein de constantes de temps différentes. Il faut parler de l'histoire des sciences, il faut parler de l'histoire de la vie, et puis aussi il faut parler de l'histoire de l'embryogenèse, par exemple. Vous voyez, donc, enfin, il y a toutes ces constantes de temps. Mais pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure, je voudrais attirer l'attention sur le fait que, effectivement, lorsqu'on va parler d'organismes comme des vertébrés, etc., les constantes de temps sont grandes, mais quand on va parler de micro-organismes, les constantes de temps sont petites. Le virus du sida évolue à l'intérieur d'un même individu séropositif, c'est-à-dire que les divisions sont tellement rapides et l'évolution est tellement vite qu'on a une population et on peut faire différentes populations. Et lorsque, par exemple, tous les ans, on change pour le vaccin de la grippe, ben, pourquoi il faut le changer tous les ans ? Ben parce que le virus a évolué.
Ouais. Donc là, on a des échelles courtes.
On a des échelles courtes. Et d'autre part, ce que je voulais dire, c'est qu'au point de vue, vous voyez, médical, on parle d'évolution sans s'en rendre compte. Par exemple, quand on est on essaye des médicaments sur des mammifères, que ce soit des rats, des lapins ou des, ouais. ou des chimpanzés, eh bien là, on prend les stabilités dont parlait Guillaume tout à l'heure, on considère que ce sont des mammifères et que si ça marche chez voilà. un lapin, une souris, ça va marcher voilà. chez l'homme.
Et l'avantage avec la souris, c'est qu'on a des générations beaucoup plus courtes que chez l'homme. Il faut
oui,
attendre beaucoup moins longtemps. Oui,
c'est plus ouais. facile aussi.
Voilà, exactement. Est-ce que la théorie de l'évolution s'applique à tous les domaines scientifiques, justement, Guillaume Lecointre ?
De plus en plus, oui.
Donc la biologie, certes, mais est-ce qu'on pourrait l'agrandir au cosmos ? On parlait des astéroïdes tout à l'heure. Ça fonctionne aussi dans ce champ-là ou pas ?
Alors justement, là, on va arriver à la définition du mot évolution. Parce que, c'est un terme du langage courant. Quand on dit que l'état mental d'un individu a évolué, quand on dit que la galaxie a évolué, on ne parle pas tout à fait de la même chose. Hein. Mm-hmm. Tout dépend de quel processus il y a derrière. Là, dans cette émission, je propose qu'on s'en tienne à l'évolution au sens d'un mécanisme qui est fondé sur une variation, puis suivi par la sélection de certaines de ces variations qui sont héritables. On transmet quelque chose à un alter ego, on va dire. Si on prend à peu près ce principe, l'évolution, oui, elle s'étend à toute la biologie, à toute l'anthropologie, à toute la paléontologie, mais également de plus en plus...
À la médecine, donc, on le disait
voilà,
tout à l'heure.
Voilà, la médecine, tout à fait. Et puis, une bonne partie de la psychologie, et puis des études culturelles aussi. Parce que n'oublions pas que on transmet aux générations suivantes, pas seulement des gènes, on transmet aussi des habitudes alimentaires, on transmet des traditions techniques, des traditions tout court, des rites, et que ces rites, ils se transmettent et ils changent. Et il y a de plus en plus d'études qui montrent que, dans certaines circonstances, ils sont sélectionnés. Donc voilà, on va un petit pas vers les sciences humaines.
Ouais. Le champ est large, donc, hein, effectivement.
Oui, j'oubliais les sciences du cerveau. Bon, on y reviendra tout à l'heure, mais la façon dont on fabrique nos neurones et la façon dont on assure une stabilité du fonctionnement du système nerveux central, ça passe aussi par l'évolution.
Allez, vous êtes nos guides cet après-midi. On a bien besoin de vous. Franceinter.fr également pour les auditeurs qui nous rejoignent avec les messages.
Ça fait bientôt une heure que tu es arrivé, que je t'ai vu t'asseoir à côté. Ça fait bientôt une heure sans oser te parler, et soudain il arrive et vous vous en allez. Au revoir mon amour, peut-être un autre jour, peut-être une autre année. Au revoir mon amour, la vie n'est pas finie, la vie n'est pas passée. C'est une autre aujourd'hui qui s'avance vers moi. C'est une autre et c'est toi qui me passe à côté. C'est un nouveau visage dont les yeux sont fermés, qui ne veut pas me connaître ni m'aimer. Au revoir mon amour, peut-être un autre jour, peut-être une autre année. Au revoir mon amour, la vie n'est pas finie, la vie n'est pas passée. À ne pas me voir, où es-tu? Te prépares-tu chez toi à ne pas me rencontrer, ou bien à m'ignorer? Où es-tu? À plus tard mon amour, peut-être un autre jour, peut-être une autre année. À plus tard mon amour, la vie n'est pas finie, la vie n'est pas passée. Plus tard mon amour, nous avons tout le temps, je ne suis pas pressé. Peut-être mon amour, mieux vaut ne pas s'aimer qu'un jour ne plus s'aimer.
Au revoir mon amour. Dominique A, à l'instant sur France Inter, vous êtes dans La Tête au Carré. Nous démarrons la semaine en parlant d'évolution. C'est la première émission d'ailleurs de deux que nous allons faire, donc jusqu'à la semaine prochaine. Dans 15 jours, ce sera la seconde, avec Guillaume Lecointre qui est avec nous et Hervé Le Guyader et tous vos messages qui arrivent sur franceinter.fr, les messages courts également sur le mot-clé l'attaque. Est-ce que Darwin, Guillaume Lecointre, Hervé Le Guyader, c'est l'homme qui à lui seul peut incarner toute la théorie de l'évolution, ou est-ce que c'est largement inexact de dire les choses de cette façon, Hervé Le Guyader?
Disons que ça a été une pensée clé à un moment donné, mais il y a eu toujours eu des individus qui y ont pensé avant. Mm-hmm. On va parler bien sûr de Lamarck, qui est en français et très connu dans notre pays. Mais s'il y a un individu à citer, c'est Maupertuis, par exemple. Maupertuis a vraiment pensé une dynamique, un transformisme. Bon, mais le siècle des Lumières, ça a été repris un peu par Diderot, par exemple. Donc, et en fait, donc Lamarck...
Alors, il disait la même chose ou pas, Darwin et Lamarck, en termes justement d'évolution et de sélection naturelle en particulier?
Alors, justement, le point clé, c'est que Darwin et Lamarck n'ont pas focalisé leur pensée sur le même objet. Lamarck, pour lui, il y avait un transformisme, et ce qu'il voulait voir, c'est... Qu'est-ce qui change et comment ça change? Comment on obtient la variabilité? Donc, il a fait des hypothèses sur la variabilité. Mm-hmm. Bien qu'il ait essayé de faire des phylogénies de l'histoire, mais bon. Tandis que Darwin, pour lui, qu'est-ce qu'il constate? Il constate que dans le vivant, il y a une très grande variabilité et que c'est cette variabilité qui va être le jeu de la sélection naturelle.
Donc il ne s'occupe pas de l'origine la variation, en fait.
Il ne s'occupe pas de l'origine de la variation.
C'est ce qui le démarque de Lamarck.
Mais le mieux, c'est que quand les quelques lettres que l'on connaît, où il commence à se poser des questions sur l'origine de la variation, il est lamarckien. Donc en fait, opposer Darwin et Lamarck, ça n'a pas de sens. Mmh. Ça n'a pas de sens. Bon, il est effectif que les hypothèses que Lamarck va faire sur l'origine de la variabilité sont fausses, bon, mais au moins il a eu l'idée d'en suggérer. Bon. Tandis que Darwin, l'idée qu'il a donc de proposer que les choses, comme disait Guillaume tout à l'heure, vont se faire au niveau de la population, même s'il n'utilise pas le terme, qu'il y a une très grande variabilité dans la nature, et que suivant les conditions d'environnement, il va y avoir une sélection qui va amener des changements, ce qu'on va appeler descendance avec modification, c'est une idée parfaitement clé qui bâtit, comme je disais tout à l'heure, le cadre conceptuel.
Et ça en devient une science historique. Quoi,
La biologie devient une science historique. Et donc, on va aller voir, essayer de la reconstruire, essayer de trouver des ascendants, des ancêtres. On va essayer d'expliquer. Et bien évidemment, l'explication ne va pas être du temps de Darwin, parce que les tout débuts de l'explication vont arriver quand la génétique va être performante, c'est-à-dire au début du XXe siècle.
Alors, Guillaume Lecointre, il y a cette idée de génie, justement, dont vous parlez de Darwin, c'est justement d'expliquer que les changements de la matière se font au hasard, c'est ça?
Oui, c'est-à-dire que Darwin n'a pas vraiment les sources de la variation, il lui suffit de constater qu'il y a variation. Et que parmi les variations, certaines d'entre elles ne sont franchement pas dans l'intérêt de celui qui la porte, si je peux le dire comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, la matière ne demande pas son autorisation à l'individu ou aux individus pour changer. La variation, elle se produit, elle peut être néfaste.
Donc c'est ça, c'est pas toujours au profit précisément de l'espèce.
En prévision d'un profit de l'espèce ou du porteur, vous voyez. Et donc, le champ du changement est libre chez Darwin. Les variations peuvent être néfastes, elles peuvent être ni bonnes ni mauvaises, elles peuvent être profitables en termes de nombre de descendants potentiellement, mais c'est pas prévu. C'est pas prévu d'avance. Alors, on dit qu'il ne faut pas opposer Lamarck et Darwin, c'est vrai, il ne faut pas les opposer tant que ça. Par exemple, tous les deux pensent à l'héritabilité des caractères acquis au cours de la vie individuelle. Au moment où Darwin écrit, il ne connaît pas les lois de l'hérédité. Et donc, il y a bien des choses sur lesquelles il ne s'oppose pas, mais il y a quand même des petites subtilités, des petites différences qui font que le mérite aujourd'hui de la théorie moderne, elle va à Darwin. C'est que pour Lamarck, lorsque l'individu doit subvenir à ses besoins, l'environnement étant contraignant, eh ben, cet individu fait des efforts pour subvenir à ses besoins. Et il entraîne certains organes. En les entraînant, il les renforce. Et comme il y a irritabilité de ces renforcements, eh bien, ce qui passe dans les générations suivantes sont surtout les traits favorables. Et ces traits favorables sont indirectement instruits par l'environnement. On dit que la théorie de Lamarck est une théorie instructiviste du changement. L'environnement, par les efforts que l'individu fait, va instruire ceux des changements qui vont sortir. Alors que chez Darwin, on n'a pas besoin de ça. Il suffit de supposer, et là je réponds à votre question, il suffit de supposer que le changement se fait complètement indépendamment des besoins [S2] Ouais. [S1] Du porteur. On a des changements néfastes, et l'environnement n'instruit pas la sortie de la variation, mais il va filtrer a posteriori celles des variations qui seront profitables [S2] Mmh. [S1] Aux générations suivantes. Ça va d'ailleurs... permettre de répondre sur des questions qui tournent aujourd'hui autour de l'épigénétique.
Alors, il y a Pierre Vincent, tiens, justement, sur Twitter, qui nous dit ceci. Est-ce que l'épigénétique peut être considérée comme un lien entre Darwin et Lamarck ? Ou j'ai rien compris du tout, nous dit Pierre Vincent. Et puis Christophe, en fait, c'est plutôt Lamarck, dit-il, qui avait raison. Non, Darwin, le vivant s'adapte par des épigénomes à son environnement. Alors, oui. Vous éclaircissez tout ça ?
Ouais, disons qu'il y a un malentendu assez général sur la signification de l'épigénétique moderne. Si je vais très vite, l'épigénétique, elle dit simplement... se transmet à la génération suivante, pas seulement des gènes, bien sûr, mais les cadres de lecture. Des cadres de lecture, c'est ce qui se passe dans les cellules, c'est de la biochimie de la cellule, c'est de la marque chimique sur les génomes, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques. Mais, donc on a l'impression de voir, effectivement, une héritabilité des caractères acquis au cours de la vie individuelle, parce que ces cadres de lecture, ils ont été acquis par les parents. Et sur des, comment dire, sur des influences qui sont directement à l'échelle de la vie individuelle. Donc, on a l'impression qu'on a du Lamarck. Comme je le disais tout à l'heure, ce n'est pas l'héritabilité des caractères acquis au cours de la vie individuelle qui fait la différence entre les deux auteurs, à leur époque respective. Non, l'épigénétique d'aujourd'hui, elle est darwinienne. Et pour une raison simple, c'est que les marques épigénétiques n'apparaissent pas non plus nécessairement aux besoins du porteur. Et un exemple tout bête, il y a des expérimentations qui ont été faites sur des souris de laboratoire. On a stressé des souris, on les a fait vivre en conditions très stressantes et on a étudié leur descendance à ces souris. Or, les descendants, bien qu'ils n'aient pas été stressés sur le plan expérimental...
Il y a une transmission des gènes.
Voilà, marque des signes de stress. Ouais, et une,
sur plusieurs générations.
Voilà, sur plusieurs générations. Et une diminution même du taux de croissance. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui se transmet épigénétiquement peut être néfaste au porteur. Et donc, ce n'est pas du raisonnement lamarckien, fondamentalement. C'est du raisonnement darwinien. C'est-à-dire qu'on peut avoir du néfaste, du neutre et du profitable qui se transmet par voie épigénétique.
Hervé Le Guyader.
Oui, il faut un peu tordre le cou à cette idée. Elle est très à la mode, cette idée d'épigénétique. Mais pour enchaîner sur ce que vient de dire Guillaume, il faut considérer, donc l'épigénétique, c'est des modifications chimiques au niveau de l'ADN. Ces modifications chimiques sont faites par des enzymes. Ces enzymes sont des protéines qui sont codées par des gènes et donc qui sont sujets également à l'évolution et également à la sélection. Donc en fait, c'est une boucle de régulation supplémentaire. Donc, dans un cadre typiquement darwinien. Le deuxième point, c'est que une mutation est irréversible. Tandis que tout ce qui est épigénétique est réversible. Et en fait, si on veut raisonner vraiment, c'est l'irréversible, la mutation irréversible qui est importante.
Puisque vous évoquez l'ADN dans l'évolution, eh bien, écoutons ensemble un extrait de Jurassic Park et on va le commenter juste après.
Il y a 100 millions d'années, il y avait des moustiques comme aujourd'hui. Et comme aujourd'hui, ils se nourrissaient du sang des animaux, même des dinosaures. Parfois, après avoir piqué un dinosaure, le moustique allait se poser sur une branche d'arbre et restait collé dans la sève. Longtemps après, la résine durcit s'est fossilisée, comme un ossement de dinosaure, gardant en elle le moustique. Cette résine fossilisée, que nous appelons l'ambre, a attendu des millions d'années avec ce moustique en elle, jusqu'à ce que viennent les savants du Jurassic Park.
Voilà, Guillaume Lecointre, l'ADN dans l'évolution, justement, le rôle des gènes, comment ça fonctionne exactement alors ?
Ouh, une vaste question. Je me propose d'y répondre rétrospectivement. On va dire que les gènes changent de statut dans la biologie du 21e siècle. Ouais. Ils ne sont plus les notaires tels qu'on les avait vus à l'époque de la métaphore du programme, les années 70. Les années 60, années 70, on avait du mal à penser quoi que ce soit qui puisse s'hériter d'une génération à l'autre qui ne passe pas par l'ADN. Vous voyez, les ADN étaient vraiment les gènes, enfin, étaient vraiment les notaires de ce qui allait être légué à la génération suivante. Aujourd'hui, on les pense beaucoup plus comme des partenaires, c'est-à-dire ils sont importants, évidemment, ils lancent des impulsions dans le développement de la génération qui va suivre. Ils sont des lanceurs d'impulsions, mais ce qui va se réaliser en trois dimensions à partir de cette impulsion initiale, on est beaucoup plus enclin à admettre que tout n'est pas écrit comme dans un logiciel, quoi. Tout n'est pas écrit comme dans un programme, et que ce déploiement va laisser une marge d'action, une marge d'action pour l'environnement, en fait.
D'où l'épigénétique, d'ailleurs. C'est exactement ça.
L'épigénétique, hein. Et puis d'où cette idée
cette science qui...
Moi, quand j'ai fait mes études de biologie, on m'apprenait
Qu'est-ce qu'on vous apprenait?
On m'apprenait qu'à l'intérieur d'un corps individuel, le corps somatique, je ne parle pas des cellules germinales, mais des cellules somatiques, les cellules du corps, eh bien, il y avait un seul génome et on ne voyait qu'une tête, quoi. Or, aujourd'hui, on est beaucoup plus enclin, on sait qu'il y a de la variation à l'intérieur du corps somatique et que cette variation-là, elle est sujette à sélection.
Allez, on y revient avec vous. D'autres messages pour vous, franceinter.fr. Aniel Katib avec Moonlight sur France Inter.
La tête carrée sur France Inter.
L'évolution, première émission sur deux avec Guillaume Lecointre et Hervé Le Guyader. Vos messages, Faraday par exemple sur Twitter nous dit ceci, on doit à Cuvier la systématique, à Lamarck le transformisme, à Darwin l'évolution. Aujourd'hui, que sait-on de notre ancêtre commun, Hervé Le Guyader?
Ah, ben...
Vous avez des infos?
Quel ancêtre commun avec quoi? C'est toujours... si on parle d'ancêtre commun, il faut au moins deux espèces. Donc là, je ne sais pas très bien de quoi il en retourne.
Guillaume Lecointre, vous auriez une petite réponse quand même à cette question?
Ben, mon ancêtre commun à moi-même, c'est moi-même. Hein, puisque
c'est déjà pas si mal.
J'ai été embryon à un moment donné, mais... Ouais. Non, effectivement, si l'ancêtre commun, c'est au minimum avec deux. Et si on parle de l'ancêtre commun avec notre groupe frère, le chimpanzé, ou plutôt les deux espèces de chimpanzés, eh bien, nous et les espèces de chimpanzés, ça remonte à 7 millions d'années à peu près.
On en parlera la prochaine fois.
Hein, ce sera oui, par exemple.
La seconde émission hein, sur l'évolution humaine, précisément. On évoquait la génétique tout à l'heure, Hervé Le Guyada. Est-ce que les outils aujourd'hui de la génétique ont permis d'éclairer considérablement justement la théorie de l'évolution et de la consolider aussi?
Ce qui s'est passé, c'est que maintenant, on a quand même des génomes entiers. C'est-à-dire que quand la génétique s'est mise en place, on parlait de gènes. Effectivement, on essayait de mettre les choses dans un programme. Le programme, vu comme un informaticien, comme disait Guillaume, ce n'est pas ça.
Oui.
Mais grosso modo, il y a quand même un programme. Le programme participe l'ADN, participe l'environnement cellulaire, et c'est un programme qui se déroule de manière étrange, de manière complètement contre-intuitive. Et maintenant, qu'est-ce que l'on a comme bonne information? On a des bonnes informations sur le génome. Et ce qu'il faut essayer de comprendre, c'est comment ce génome s'exprime au cours de l'embryogenèse, comment se font l'ensemble des boucles de régulation, comment se font les départs, les allumages de tel gène, l'extinction de tel autre.
Oui.
Ça devient d'une très, très grande complexité.
Avec cette part de hasard dont on parlait?
Le hasard...
Et qui a un rôle prépondérant?
Le hasard, entre guillemets, je préfère dire le terme d'aléatoire, a un rôle absolument prépondérant.
Ouais.
Il a un rôle prépondérant, on parle de l'embryologie, Au moment où notre cerveau se met en place,
ouais.
Il y a donc des milliards de neurones, il y a des milliards de neurones qui vont faire des connexions, mais ne vont survivre que ceux qui ont fait des connexions. C'est-à-dire que là, on va déjà avoir une sélection au niveau de l'embryologie qu'on commence à comprendre, d'ailleurs.
Oui, mais c'est difficile à comprendre, parce que ça paraît contradictoire avec cette notion, justement, de programmation là, que vous venez d'évoquer.
Hein, c'est totalement contradictoire.
C'est un problème de métaphore. C'est un problème de métaphore, c'est que doit-on appeler programme ce qui est régulier? En fait, en biologie,
on l'entend comme ça, en tout cas.
Oui, mais en biologie, on oublie
comme
un truc.
Une sorte de déterminisme aussi des choses.
C'est que quelque chose de régulier, à grande échelle, peut survenir de processus aléatoires et multiples à petite échelle. Et ça, en biologie, on n'a pas voulu le voir. Ça date de 1944. Historiquement, on sait très bien d'où ça vient. C'est Schrödinger qui a posé ce truc-là. Dans What is life? Dans Qu'est-ce que la vie? Il conçoit que les régularités du biologique ne peuvent s'expliquer que par des régularités à petite échelle.
Ouais.
Or, Hervé l'a dit pour la neurogénèse, on a des régularités dans le fonctionnement du cerveau, et on a des régularités dans plein d'endroits de l'organisme à partir d'un mécanisme aléatoire qui est trié, en fait. Et c'est pour ça que la métaphore du programme, finalement, elle n'est plus bonne. Parce que la métaphore du programme, je vous relire François Jacob, c'est une métaphore quand même très forte. On a une inscription, quelque part, de la totalité des opérations qui vont survenir. Or, si vous mettez de l'aléatoire dans le système, vous acceptez le fait que vous ne puissiez pas prévoir quelques-unes de ces manifestations, vous voyez. Donc, la métaphore du programme, aujourd'hui, on est quand même un peu en train de lui tourner le dos.
Il y a eu une dérive, justement, dans le domaine de la génétique aussi.
Une dérive génétique?
Oui, par rapport à l'évolution, la façon dont on a raconté l'évolution par la génétique.
La génétique a été un moment... déterministe, mais au sens du programme, précisément. C'est-à-dire que je ne fais pas partie de ceux qui opposent déterminisme et hasard. Il y a des phénomènes qui peuvent être à la fois déterminés et aléatoires. C'est un peu compliqué comme question, mais c'est vrai que il y a eu une dérive vers une programmation de ce qui doit advenir, une rigidification du destin du corps biologique individuel. Aujourd'hui, la biologie est devenue probabiliste, si je peux le dire comme ça. Les modèles stochastiques de régulation génétique, stochastiques, c'est-à-dire des modèles qui font intervenir le hasard précisément, sont plus efficaces pour expliquer ce qui se passe dans une cellule que des modèles déterministes et mécanistes comme on les pensait dans les années 60 avec le prix Nobel de l'opéron lactose.
Donc tout ça consolide la théorie de l'évolution.
Oui,
aussi,
ça la consolide, ça fait même descendre variation sélection à l'intérieur du corps et à l'intérieur de la cellule.
Larry nous demande ceci, est-ce que l'évolution suit une constante ou se fait-elle en marche d'escalier? Est-ce que l'évolution connaît des changements de sa fréquence? Alors, Est-ce qu'il y a un métronome de l'évolution ou pas du tout, justement?
Oui, on a pensé à un moment donné qu'au niveau de l'ADN, il y avait ce qu'on appelait l'horloge moléculaire, qui avait un métronome de l'évolution. Ouais. Bon, on s'est rendu compte que, ça c'est encore l'histoire des sciences qui était assez amusante, c'est que les deux premiers cas qui ont été un peu décodés, en particulier l'évolution des globines, eh bien ça collait assez bien avec l'horloge moléculaire. Mais que, grosso modo, eh bien, ce qui se passe, c'est qu'il y a des changements de vitesse à certains moments. Tout évolue en mosaïque. Un génome va évoluer en mosaïque et au cours du temps, va évoluer en mosaïque. Donc, en fait, on a quelque chose de très compliqué et la notion d'horloge moléculaire. Donc,
quand on a une grande extinction de masse, par exemple, comme c'est arrivé dans l'histoire de la Terre, qu'est-ce qu'on observe du point de vue de l'évolution à ce moment-là, précisément ?
Alors là, on est au niveau des espèces. Bon, grosso modo, vous savez qu'il y a 5 grandes extinctions de masse. Eh bien, donc, ce qui se passe, c'est que les millions d'années qui suivent cette extinction de masse, on va avoir une diversification extrêmement rapide qui va amener pas mal de nouveautés. Et donc, en fait, là, on va avoir des changements extrêmement rapides. Et par exemple, lorsque les paléontologues essayent de calibrer la durée de vie des espèces, ils prennent bien garde de ne pas se mettre au niveau de ces changements de masse, justement, parce qu'autrement, ils pourraient dire des bêtises.
Guillaume Lecointre, est-ce qu'une espèce peut se perpétuer sans évoluer, justement ? Ça, c'est une question qui revient tout le temps. Qu'est-ce qu'on observe à ce niveau-là ? Est-ce possible ?
C'est toujours une question d'échelle, c'est-à-dire qu'il y a des formes. Je ne vais pas dire espèce, je veux dire forme. Ouais. Dans l'histoire de la vie, on enregistre des formes qu'on appelle panchroniques, c'est-à-dire elle semble, cette forme, ne pas changer à travers les millions d'années. C'est la canthe, certaines blattes, les limules, tiens, c'est les espèces de horseshoe crabs en anglais, vous savez, ces animaux qui ont des formes de chevaux à cheval, une espèce d'animal à carapace.
Donc on a le sentiment qu'il reste figé comme ça.
Voilà, on a l'impression que ça reste figé. Or, ça, c'est, encore une fois, c'est qu'une question d'échelle. La matière, par définition, elle change. C'est-à-dire que ces organismes-là, ils sont changeants, mais à petite échelle. La forme est stable, mais l'espèce change. D'ailleurs, ça a été étudié, ça, la diversité génétique des limules. Il y a des gens qui se sont dit, voilà une forme qui est constante dans le temps. Et qu'en est-il de la diversité génétique ? Or, les limules, notre bonne vieille limule, a la même diversité génétique.
Donc, personne n'y échappe.
Personne n'y échappe, que des abeilles ou des fourmis.
Donc, ça, c'est une loi universelle.
La matière, vous ne pouvez pas l'empêcher de changer, ça.
Hervé Le Guyader, pour conclure.
L'un des éléments clés difficiles à comprendre, c'est quand on voit que quelque chose ne change pas, on croit que rien ne bouge. Non. Il y a continuellement des changements, continuellement des mutations, mais elles sont toutes éliminées. Donc on a l'impression que rien ne bouge. Pourquoi ? Parce qu'on élimine tout ce qui a changé, ce qu'on appelle la sélection stabilisante. C'est l'une des choses peut-être les plus difficiles à comprendre.
C'est l'intuition de Maupertuis que tu citais tout à l'heure.
Oui, exactement.
Et on termine là-dessus pour cette première partie. Vous reviendrez dans 15 jours.
Oui, terminer sur Maupertuis, c'est très bien.
D'ici là, vous êtes content, vous partez avec le sourire. Et d'ici là, les auditeurs ont le temps de nous envoyer d'autres messages qu'on vous transmettra évidemment à l'occasion de cette seconde émission consacrée à l'évolution. Ce sera donc dans 2 semaines maintenant. Merci beaucoup à tous les deux, Guillaume Lecointre et Hervé Le Guyader. Je signale que la bibliographie entière est sur le site de La Tête au Carré pour parler par exemple de l'évolution Questions d'actualité chez Quaé ou encore de ce livre Penser l'évolution aux éditions de l'Imprimerie Nationale. Bonjour Fabrice Drouel.
Bonjour Mathieu Vidard.
Dans un instant, affaires sensibles, quel sera le thème Fabrice aujourd'hui ?
Le référendum sur la Constitution européenne de 2005, un événement politique fondateur très important du système politique que nous connaissons aujourd'hui. C'était vraiment un processus même en politique intérieure qui était fondamental. Et nous en parlerons avec notre invité, qui n'est autre que Jean-Luc Mélenchon, l'un des acteurs principaux de cette campagne et de la victoire du non à ce référendum.
Et qui a le sourire aujourd'hui pour d'autres raisons également.
Oui, pour la Grèce.
Merci beaucoup Fabrice, à tout à l'heure.